Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Avancée rapide du M23 au Nord Kivu et son expansion au Sud Kivu. La chef de la MONUSCO exprime sa préoccupation à ce sujet. Madame Bintou Keïta a présenté hier son rapport trimestriel sur la situation en RDC devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Financement des projets à impact visible pour renforcer le secteur de l'énergie en RDC. Le ministre des Finances réitère l'engagement du gouvernement à donner le meilleur pour relever les défis dans ce secteur. Doudou Fouamba a échangé à ce sujet hier à Kinshasa avec son collègue de l'énergie. Et puis, à Kisangani, les victimes de guerre éligibles à l'indemnisation commencent à être servies, mais des mécontentements demeurent au sein des supposées victimes. Pour en parler, nous recevons la secrétaire rapporteure du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. La chef de la MONUSCO exprime sa vive préoccupation face à l'avancement rapide du M23 au Nord Kivu et de son expansion au Sud Kivu. Madame Bintou Keïta s'est ainsi exprimée hier lors de son rapport trimestriel présenté devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC dénonce aussi l'appui du Rwanda au M23. Suivez un extrait de son adresse, l'original de cette partie étant en anglais, voici sa partie française faite par le service d'interprétariat de l'ONU à New York.
Je suis vivement préoccupée face à la progression rapide du mouvement du 23 mars, M23, au Nord Kivu, et de son expansion également vers le Sud Kivu. En dépit des nombreuses opérations menées par les FARDC, souvent appuyées par la MONUSCO et la SAMIDRC. Ces deux dernières semaines, le M23 a pris plusieurs localités stratégiques au Nord Kivu, notamment la ville de Kanyabayonga, située à cheval sur les territoires du Lubero et du Rutshuru. Lors de la dernière offensive militaire en date, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des FARDC, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements de population et est venu accentuer une situation humanitaire et des droits humains déjà catastrophique. Comme l'a indiqué le groupe d'experts qui fait rapport au comité de sanctions créé par le Conseil de sécurité, le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui au M23, lui permettant d'obtenir de vastes gains territoriaux dans l'est de la RDC. Cette crise qui évolue rapidement avec le M23 pourrait provoquer un conflit régional.
Toujours devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la chef de la MONUSCO a aussi rappelé qu'une série d'attaques horribles menées par les groupes armés ADF, Zaïre et Codeco en Ituri ont fait près de 300 victimes supplémentaires. Plus au sud, les ADF sont également entrés à plusieurs reprises dans le territoire de Lubero au Nord Kivu, tuant un nombre sans précédent des civils. Entre le 4 et le 7 juin 2024 seulement, plus de 90 personnes ont été tuées dans des coins isolés du territoire. Au Sud Kivu, la crise du M23 a également atteint le territoire de Calais avec des tirs indirects frappant Minova et d'autres villes voisines, tuant et blessant plusieurs civils et générant des nouveaux déplacements. Dans le sud de la province, les rumeurs d'infiltration du M23 dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga ont encore exacerbé les tensions communautaires qui nécessitent l'attention urgente des autorités gouvernementales, indique-t-elle. Et dans ce climat d'insécurité croissante, qu'a fait la MONUSCO? Voici la réponse de Madame Bintou Keïta.
Dans ce contexte complexe, la MONUSCO a poursuivi son soutien aux opérations militaires des FARDC. Les opérations conjointes ont pu contribuer à la protection des civils, surtout en ce qui concerne les opérations contre Codeco et des groupes Mai Mai en Ituri. La MONUSCO a également formé 500 nouvelles recrues FARDC dans le cadre d'une nouvelle opération conjointe FARDC-MONUSCO nommée Northern Scalpel. L'opération Springbok en défense de Goma et Sake a continué à faire face aux opérations du M23 et se poursuit. Pour sa part, la SAMIDRC a continué son déploiement et devrait atteindre sa pleine capacité opérationnelle d'ici mi-juillet.
Et face à la guerre qui déchire l'est de la RDC, la chef de la MONUSCO estime qu'il n'y a pas de solution militaire. Elle rappelle ici les différentes options qui ont été faites aux membres du Conseil de sécurité pour résorber cette crise. On l'écoute encore une fois.
Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, comme sollicité dans la résolution 2717-2023, le secrétaire général vous a soumis une lettre identifiant les différentes options possibles de soutien à la SAMI-DRC, dont le mandat a été endossé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mars. Je ne reviendrai pas sur les options qui vous ont été présentées, mais voudrais rappeler, comme mentionné dans la lettre, qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit et que la paix ne pourra être rétablie que grâce à des solutions politiques durables. J'exprime donc ma gratitude et mon plein soutien aux efforts continus de médiation menés par le président angolais João Lourenço entre la RDC et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda. Ceci qui nécessite le plein soutien de la communauté internationale. Je salue à cet égard la tenue prochaine d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine à l'initiative de l'Angola pour discuter de la situation à l'Est. Ces efforts régionaux doivent être menés en complémentarité avec les initiatives de médiation au niveau provincial et local destinées à faciliter le désarmement des groupes armés dans l'esprit du processus de Nairobi.
Par ailleurs, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, plaide pour un retrait responsable et ordonné de la MONUSCO de la RDC. Elle l'a dit hier à Kinshasa lors de la conférence de presse co-animée avec son collègue de la communication et médias. La chef de la diplomatie congolaise assure que dans le Nord Kivu, le gouvernement devra prendre en compte les évolutions sécuritaires sur terrain avant d'amorcer ce processus du départ de la mission onusienne. Écoutez Thérèse Kayikwamba dans cet extrait choisi par Blaise.
Ce qui est très important, c'est que nous ne voulons pas précipiter une situation dans laquelle justement la vulnérabilité et la volatilité du contexte sécuritaire pourraient être exploitées davantage. Donc nous voulons un retrait responsable, durable et ordonné de la MONUSCO. Cela veut dire que quand il s'agit du Nord Kivu, nous allons prendre en compte les évolutions que nous voyons sur le terrain afin de prendre des décisions responsables et d'amorcer ce processus quand les conditions les plus propices sont réunies. Encore une fois, capitaliser aussi sur ce que nous avons appris au Sud Kivu. La présence de la MONUSCO au Nord Kivu est aussi encore très importante pour nous. Pourquoi ? Parce que la MONUSCO fournit et va fournir un appui à la SAMI-DRC. La mission venue de la SADC pour nous accompagner, pour donner une réponse plus robuste à l'agression rwandaise, dépend aussi partiellement d'un appui logistique de la MONUSCO.
Pendant ce temps, la représentation des étudiants de la ville et du territoire de Beni s'est dit inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Grand Nord Kivu, c'est-à-dire la région de Beni, Butembo et Lubero. Dans un mémorandum remis lundi au maire de la ville de Beni et adressé au ministre de la Défense nationale, de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que celui des affaires sociales, cette structure estudiantine parle d'une situation qui affecte gravement leurs études. Marc Marofimbo nous en parle.
Dans son mémorandum, la représentation des étudiants de la ville de Beni et du territoire de Beni dit que plusieurs parents d'étudiants vivent dans la précarité à cause de l'insécurité dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Beaucoup d'entre eux sont dans les possibilités d'assurer la prise en charge de leurs enfants étudiants. Michael Mouchimulito, coordonnateur de la représentation des étudiants de Beni, ville et territoire, explique.
Les conditions sociales imposées par la guerre ne permettent plus aux étudiants et à leurs parents de s'acquitter à toutes les exigences de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est ainsi que nous exigeons la mise en place d'un régime spécial adapté aux conditions économiques et sociales de cette partie du pays ravagée par la guerre pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études. Comme les installations académiques dans notre milieu posent aussi un grand défi auquel nous sommes confrontés, nous vous prions de prendre des mesures nécessaires pour notre région et permettre aux étudiants de Beniville et Beni territoire, Butembo et les territoires de Lubero d'avoir aussi des locaux confortables comme les constructions faites dans les Kasaï et organiser des descentes dans toutes les provinces pour s'imprégner de la situation.
Depuis quelques jours, la région de Beni, Butembo et Lubero est prise en étau par deux rébellions, au nord par les ADF et au sud par l'M23. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Entre-temps, en Ituri, un dernier groupe d'environ 400 militaires des FARDC ont clôturé hier à Bunia la formation d'un mois sur les techniques de combat dans des zones difficiles d'accès. C'est en prévision de leur déploiement dans le territoire de Djougou pour combattre les groupes armés qui commettent des exactions contre la population. Cette formation est assurée par les casques bleus de la MONUSCO en vue d'accroître la capacité opérationnelle de ces militaires venus du centre de Kamina. Je vous l'ai dit dans les titres, financement des projets à impact visible pour renforcer le secteur de l'énergie en RDC. Le ministre de l'Énergie, Teddy Luamba, a échangé hier avec son collègue des Finances. Dans son intervention, ce dernier réitère l'engagement de tous les membres de son équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes pour relever les défis dans ce secteur. Le ministre des Finances parle des projets Grand Inga, ainsi que les autres projets de construction des centrales hydroélectriques parmi les projets structurants en cours de développement. Le ministre Doudou Fouamba est au micro de Michel Kifindangoy.
Il était question d'échanger ensemble avec mon collègue de l'hydraulique sur un projet rapide à impact visible dans le secteur de l'énergie, parce que notre gouvernement a présenté un programme d'action qui a des axes bien précis, qui soutient l'énergie et l'électricité comme vecteur de développement et de croissance économique. Il est question d'investir dans ce secteur, comme vous savez très bien. Nous avons des projets structurants qui sont en cours de prospection, c'est notamment les projets Grand Inga avec les partenaires de la Banque mondiale et de la BAD. Nous avons les projets Katende, Kakobola, Chopode, mais tous projets structurants demandent du temps dans leur mise en place, dans la conception et dans les développements. Alors nous avons estimé qu'en attendant la finalisation des travaux de conception, Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Hydraulique a pensé qu'il pouvait venir vers nous sur des projets à impact visible dans ce secteur. Ces projets qui peuvent nous apporter 35 mégawatts d'énergie supplémentaire dans différentes entités qui ont été choisies où il existe des réseaux.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, la société civile coordination de la commune de Karisimbi alerte sur les potentiels dangers qui guettent la population au regard de la pénurie d'eau dans une bonne partie de la ville de Goma. Depuis la mise en application des mesures réglementant la circulation des gros véhicules dans la ville, les transporteurs d'eau par camion-citerne ont lancé une grève qui a duré 3 jours en signe de protestation. Conséquence, des nombreux quartiers non desservis par la régie des eaux sont pénalisés et c'est cette situation qui justifie cet appel de la société civile à l'autorité, mettant l'accent sur les risques des maladies hydriques, accidents et autres incidents. On écoute à ce sujet Christian Kalamo, président de la société civile commune de Karisimbi, propos recueillis par Chris Mukandmatande.
Il y a carence d'eau qui s'observe dans une grande partie de la commune de Karisimbi. Et tout ça, c'était dû à des camions citernes qui approvisionnaient certaines parties qui n'ont pas de bornes fontaines dans beaucoup de quartiers de la commune de Karisimbi. Notre inquiétude est que nous puissions peut-être enregistrer encore beaucoup de cas de choléra, beaucoup d'accidents causés par des véhicules à nos populations qui voulaient s'approvisionner au niveau du lac Kivu. Nous allons demander à l'autorité urbaine de mettre la pression sur la partie de la régie des eaux, de mettre la pression sur d'autres sociétés qui œuvrent dans le secteur d'eau. À la contre de cela, il y aura naissance des épidémies encore de la ville de Goma au moment où c'est les autorités qui devaient régulariser tous ces problèmes pour essayer de résoudre ces carences d'eau. Surtout que nous sommes dans une période aussi sécheresse. L'eau, c'est la vie. Nous sommes en train de faire appel à l'autorité pour épargner la population avec ces problèmes liés au manque d'eau dans notre commune de Karisimbi, ici en ville de Goma.
Actualité internationale. Un tribunal kényan juge que la mort par balle d'un journaliste pakistanais par la police à Nairobi en 2022 était illégale et inconstitutionnelle. C'est ce qu'ont déclaré un avocat et la famille du journaliste. La juge Stella Mutuku a également reproché au procureur général et au directeur des poursuites publiques du Kenya leur laxisme dans l'enquête sur la mort d'Arshad Sharif après que la police a ouvert le feu sur sa voiture à un poste de contrôle routier. Le journaliste de 50 ans avait fui le Pakistan au début de l'année pour éviter d'être arrêté dans son pays sous l'accusation de dénigrement des institutions nationales pakistanaises. En décembre 2022, un groupe d'enquêteurs pakistanais a conclu que le meurtre de Sharif était un assassinat planifié. Leur rapport suggère que la balle qui a blessé mortellement Sharif a été tirée de l'intérieur de la voiture à bout portant.
L'invité.
Elle nous vient de la province de la Tchopo. Les victimes de guerre inscrites sur la première liste des personnes éligibles à l'indemnisation ont déjà commencé à être servies à travers leur compte bancaire. Cependant, certains mécontentements sont toujours enregistrés dans les milieux des supposées victimes. Où en sommes-nous avec ce processus d'indemnisation? Nous en parlons avec Madame Mimi Mopunga, secrétaire rapporteure du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Elle est avec Jacques Mukonkole.
Madame Mimi Mopunga, bonjour.
Bonjour.
À ce jour, où en sommes-nous avec le processus d'indemnisation individuelle des victimes de guerre?
Merci beaucoup pour la question. Une réunion de conseil d'administration au mois de mai, là où on a validé au moins 1556 cas de victimes, donc de pertes en vie humaine et puis de blessés. Mais au total, la coordination de FIVAO avec la commission ad hoc avait validé 3179. Et on a écrit une lettre à l'époque pour transmettre le rapport du conseil d'administration auprès de la ministre d'État, ministre de la Justice sortante, et elle avait accordé à ce qu'on puisse payer à tous les certifiés, les 3179 victimes.
Combien de victimes à ce jour ont déjà été payées?
Nous avons 101 victimes qui ont été payées au niveau d'Eurobank. Avant, on a payé 73, après 28 personnes. Donc, si vous faites la sommation, ça va vous donner 100 et quelques. Et il y a encore certains dossiers qui traînent au niveau de la banque. Mais il faut aussi retenir une chose que parfois, les victimes aussi traînent les pas pour aller au niveau de la banque en fait qu'on puisse ouvrir leur compte.
Est-ce que ce nombre n'est pas minoré par rapport à la grandeur de la ville de Kisangani?
Il faudrait retenir une chose. Normalement, selon l'esprit de l'arrêt de Cour internationale de justice, on devrait seulement indemniser d'une manière collective pour éviter tout cela, puisque on ne peut pas comprendre l'écart qui existe entre ce que le gouvernement a payé en 2021, la liste est de 3600 et quelques victimes. Mais on a quitté les 600 et quelques mille victimes pour 14 000. Allez-y un peu comprendre. C'est ça notre grande difficulté.
Qui alors doit être indemnisé?
Et le décret créé FIVAO demande à ce que ne puisse être indemnisé que la vraie victime. C'est le travail que nous sommes en train de faire.
Alors, comment pouvez-vous expliquer aussi certains mécontentements avec menaces et parfois de manifestations des rues?
C'est la question que moi je me pose. Puisque normalement, on n'a pas compris dans ces mouvements, oui, j'ai parlé ici de 14 000. Mais quand vous regardez ceux qui manifestent, c'est parfois même pas 100 personnes. Il y a l'anguille sous roche. Puisqu'il n'y a qu'une équipe accompagné des mouvements citoyens, des syndicalistes, à quelques ONG des droits humains. C'est là où réside la question. Toutes ces structures-là d'accompagnement, quand eux aussi, ils réclament à ce qu'on puisse leur payer, en qualité de quoi? Ils ne sont pas victimes s'ils ont accompagné. Donc, c'est du bénévolat.
Combien l'Ouganda a déjà payé jusque-là?
L'Ouganda a payé 130 millions. Et dans les 130 millions, il faut comprendre qu'il y a des quotités. Nous, des FIVAO, nous ne gérons que des quotités. Et une quotité revient au pouvoir du gouvernement. C'est ainsi qu'on parle pour la première tranche, les 9 millions que le gouvernement avait donné à travers le ministre de l'énergie à la SNEL pour la réhabilitation de la centrale électrique au niveau de Kisangani et des 1 750 000 $ qu'on avait remis au ministre du développement rural et lui à son tour a donné à l'OVDA. Et pour la deuxième tranche également, nous avons reçu l'autre quotité qui revient au gouvernement pour la réparation des ressources naturelles et RSC dans le compte ministère de la Justice. Donc, en soi, s'il faudrait le dire, nous, jusque-là, de FIVAO, nous avons reçu 102 millions de dollars pour les deux quotités.
À quoi servent ces quotités que vous recevez?
La quotité que nous recevons sert à l'indemnisation individuelle et collective ainsi qu'aux réparations des ouvrages, c'est-à-dire de maisons, des biens qui ont été endommagés.
Alors, le ministère de la Justice vient de publier un communiqué qui gèle vos comptes au niveau de la Rawbank. Comment vous avez reçu ce message?
Moi, je peux dire que jusque-là, nous, on n'est pas encore informés, puisqu'il s'agit de la gestion de la République. Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux que moi, je peut considérer une information. C'est à prendre avec des pincettes, puisque nous sommes dans l'administration, nous attendons à ce qu'on puisse être notifié de cette décision-là. Ce n'est qu'après que nous pourrons réagir face à ces communiqués.
Madame Mimi Moponga, merci.
Voilà, c'était là notre invitée, la secrétaire rapporteure du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Et par ici prend fin ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Mimi Kindo à la mise en onde, merci et très bonne suite des programmes sur Radio Capi.